Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à la galerie Mola pour la présentation du dernier roman intitulé « Un beau début » d'Éric Laurent. Je vous remercie de nous accorder un peu de votre temps. Et je voudrais, non pas me raconter, c'est complètement inutile, vous êtes venu pour écouter Éric Laurent. Je voudrais dire que, en toute sincérité, que j'ai adoré ce roman et que c'est le premier livre d'Éric Laurent que j'ai lu. Il y a quelques semaines, à la sortie de ce livre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Henri Cosse, qui m'a recommandé sa lecture. Et j'avoue que pour moi, cela a été une découverte. Cela a été une découverte parce que Éric Laurent, il me semble que votre rapport à l'écriture et votre rapport au roman est de nature à, en acte, régler les querelles universitaires, académiques et journalistiques qui opposent le travail des formes, le travail sur la langue, et puis le rapport à l'histoire. Il me semble, toute la presse, Télérama, Les Inrocs, et pas seulement eux, toute la presse insiste sur la qualité de votre écriture, sur votre style, style proustien, qui est délibéré. J'aurai l'occasion de vous interroger à ce propos. Et il me semble que, tout en nous offrant un livre extrêmement charpenté, très bien écrit, c'est un livre qui nous dit un certain nombre de choses sur les gens de notre génération ont connu une période de l'histoire de France, grosso modo les années 70-60-80 à peu près, celles que j'appellerais les dernières années de la Ve République gaullienne. Il y a toute une série de références. Et vous le faites d'une manière non documentaire, non réaliste, non naturaliste, non vériste, avec un souci extrêmement pointu de la forme. Et à la fin de la lecture du roman, on a appris des choses quand on est plus jeune que moi. Et quand on a mon âge, on se souvient et on médite et on commente ce que l'on a pu vivre. J'ai envie de commencer par là. C'est délibéré pour vous, ce travail qui subsume l'opposition fiction-réalisme.
Disons que quand j'étais jeune homme et que je songeais à écrire, c'est-à-dire autour de entre 20 à 22 ans, cette question-là de la forme était pour moi une obsession. Et pendant très longtemps, elle a été un frein, évidemment, à l'écriture, parce que c'est... Après, c'est toujours la même question. Comment écrire après Beckett, quoi ? Comment, lorsque le roman a été vidé de sa substance, qu'il n'y a plus d'histoire, plus de personnages, raconter une histoire avec des personnages, tout de suite, c'est de nouveau renouer avec la vieille tradition académique, les choses un peu convenues. Et que faire après la toile blanche, quoi ? Le carré blanc sur fond blanc. Et donc, pendant très longtemps, j'étais paralysé, puisque je n'imaginais pas pouvoir écrire des petites histoires à la papa, un peu. Je m'y suis autorisé à partir du moment où j'ai senti que il y avait encore peut-être un renouvellement des formes possibles. Et là, je me suis dit, bon, très bien, je peux raconter des histoires, parce qu'à partir du moment où je peux m'amuser formellement. Voilà.
Alors, si vous me permettez, la littérature que j'aime, que j'apprécie, c'est une littérature qui a le souci de la forme et du genre. A priori, je considère que des auteurs publiés aux éditions de Minuit correspondent à mes goûts, dans la mesure où je suis un grand admirateur et un assez grand lecteur du nouveau roman, et notamment d'Alain Robbe-Grillet, qui en permanence a eu le souci de trouver, d'inventer la forme contemporaine du roman. Et il me semble que, notamment avec Un beau début, c'est ce que vous faites. Et vous le faites dans un rapport, je dirais, postmoderne La presse le souligne, souci de l'intertextualité, de l'intermédialité, mais en même temps, avec, vous écrivez avec la bibliothèque, vous écrivez avec le patrimoine, vous écrivez en allant chercher dans le passé et dans notre passé littéraire des formes que vous ne vénérez pas, mais que vous utilisez pour tenir, pour donner chair à votre propre voix.
Oui, monsieur, alors ça, c'est une... C'est très commun dans tous les arts. Le rapport à la tradition. Voilà. Je rappelle que en 1863, quand Manet fait le déjeuner sur l'herbe, qui est donc le début de la peinture moderne, il s'inspire d'une gravure de Raphaël. Dont il prend, qui doit être le, je sais plus si c'est pas le jugement de Paris ou quelque chose comme ça, et donc quelque chose qui a déjà trois siècles d'existence. Et il, donc je pense qu'on ne peut pas, à moins d'être très prétentieux, mais on ne peut pas écrire en ignorant ses prédécesseurs.
Ma question est naïve. Je suis bien évidemment d'accord avec vous. Il serait immodeste d'ignorer le passé et d'ignorer la bibliothèque. Mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question, donc naïve, celle du Candide ? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? Est-ce que vous avez consciemment ou d'une manière moins nette l'impression que les prédécesseurs n'ont pas apporté une réponse à ce que vous cherchez dans l'écriture? Parce que je suis, je le répète, peut-être naïf, mais écrire, c'est un travail, c'est parfois une douleur, c'est difficile, et on ne se livre pas à ce travail, à cette difficulté, à cette douleur, sans avoir une quête, un mobile. Et si on le fait, c'est parce que peut-être l'on estime que la bibliothèque n'apporte pas réponse à la quête que l'on essaie d'entamer.
Non, enfin, en ce qui me concerne, j'aurais pas cette prétention là. Non. Je pense que mon apport est très très mineur, donc j'ai vraiment pas la prétention d'apporter une réponse à une question voilà qui restait pendante. Et non, pas du tout. Je absolument pas. Non. C'est même plus. Je dis que j'invente pas grand chose en fait, et mon travail c'est plus en cela qu'il est postmoderne. C'est un peu l'art d'accommoder les restes, voilà, c'est ce que je fais, ouais. Donc je joue avec mes petites influences, et donc effectivement il y a en mêlant le style de Proust, celui de Claude Simon, celui de Flaubert, et en y apportant une petite touche vaguement personnelle, tout ça semble original, mais dans le fond, ça n'est pas tant que ça. Ce qui est original, c'est... Enfin, je crois que je n'ai vraiment pas la prétention d'inventer quelque chose. Voilà. Je me vois plutôt dans une forme, enfin, presque dans une... C'est presque de la littérature décadentiste un siècle plus tard. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'il ne se fait pas grand-chose de neuf dans la littérature française, aujourd'hui. On n'a pas vu une avant-garde depuis plus de 30 ans.
Depuis la fin de Tel Quel, voilà. Il n'y a plus d'avant-garde.
Voilà. Et il y a même une sorte de retour à des écritures très, très plates. Quoi. Enfin, il suffit de lire un auteur que tout le monde considère comme le grand génie d'aujourd'hui, Michel Houellebecq. C'est même à côté, Anatole France, c'est de l'avant-garde, quoi. Donc,
Alors, si vous me permettez, j'ai envie de vous interroger sur votre écriture, sur votre, peut-être sur votre gueuloir, peut-être aussi sur votre ouvroir. Il me semble, nous en parlions tout à l'heure, vous et moi, lors d'un aparté, je suis de celles et de ceux qui pensent que un grand écrivain, c'est quelqu'un qui invente une langue étrangère dans sa propre langue et qui la pousse à ses limites, lesquelles sont d'un côté la peinture, de l'autre côté la musique. Et il me semble qu'à bien des égards, votre écriture pourrait fournir l'illustration parfaite pour un cours qu'un professeur pourrait donner de critique littéraire auprès de ses étudiants. Il me semble que la dimension de l'image et de l'icône est très présente chez vous. Avec humour, mais pas seulement, avec humour dans un beau début, dans la mesure où l'image inaugurale, c'est un nu, et c'est un nu dans un magazine, époque, on disait de charme.
C'est Dream Girls. C'est un poster de Playboy.
De Playboy, de Penthouse. Ouais. Dans un autre de vos livres, il en est question, je crois, de Penthouse.
Oui.
Voilà. Oui. Donc ici, le magazine s'appelle Dream Girls.
Voilà.
Bon, et donc votre héroïne, Nicole, a posé, elle a posé nue. C'est au tout début de sa carrière qui va durer une dizaine d'années à peu près. Bon. Donc la question de l'image est présente, pas simplement en termes de motifs. De mon point de vue, la manière dont vous décrivez cette image et à travers la description de l'image, c'est récurrent d'ailleurs dans le livre, la façon dont vous évoquez la chair et la chair féminine me paraît aller au-delà d'un simple commentaire d'une icône. Il y a un rapport là entre l'image et l'écriture qui me paraît très important. Mais du point de vue de la musique aussi, dans ce livre, votre écriture est en parenté avec l'écriture proustienne et, me semble-t-il, cela passe nécessairement par des questions de rythme, par des questions de pause. Et je suis à peu près persuadé que quand vous écrivez une phrase qui fait deux pages, il y en a, cela ne peut pas venir d'un G relevant d'une écriture automatique. C'est un travail acharné.
C'est impossible. Ou alors il faudra avoir sans doute un talent que je n'ai pas. Mais c'est très laborieux. Les phrases, dans leur forme définitive, paraissent très bien écrites, mais dans le premier mouvement, c'est un mouvement d'écriture automatique. Voilà.
Vous avez des phrases d'éveil.
Oui, voilà. Même parfois, c'est simplement des mots. Voilà. Et donc, je commence à les jeter comme sur l'écran au fil de la... Je vais dire au fil de la plume, mais disons... Je ne sais plus comment on peut dire maintenant.
Vous écrivez sur clavier.
Au fil des doigts, oui, sur clavier. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est une sorte de mouvement comme ça, d'inflation, où, et après je vois que, et comme je me laisse aller, il y a souvent des choses qui paraissent complètement contradictoires, où on ne voit pas comment, au sein d'une phrase, ces choses pourraient cohabiter, et en fait, toute la gageure, et c'est ce qui m'amuse aussi, c'est de me dire, tiens, ben voilà, bon, c'est là, comment faire tenir
Alors, je vais peut-être vous étonner ou vous surprendre, mais ce que vous évoquez me passionne et j'espère ne pas ennuyer l'assistance. Je trouve passionnant de savoir comment un écrivain travaille. Vous saisissez sur clavier, vous travaillez sur écran. Vous corrigez sur écran ou vous faites un tirage papier?
Alors, pour entrer dans les détails, je vais essayer de...
Enfin, si vous le désirez.
Il n'y a pas de secret. Hein, c'est... Non. La phase de travail la plus longue pour moi est la première version, le premier jet. Donc ça prend généralement deux ans et demi. Et après quoi, une fois que j'ai cette première version, qui est une version très imparfaite, je reviens dessus et donc j'en fais plusieurs. Et chaque fois, je change de support. Donc, une fois que j'ai cette version, je l'imprime, je travaille sur papier, à la fois sur papier et sur écran. Je m'en suis aperçu, et je crois que tout le monde a fait cette expérience, le regard se modifie et est transformé par le changement de support. Voilà. Donc, c'est pour ça que la vision sur écran, vision sur papier, et après, il y a aussi une version que... comme dirait Flaubert, je passe au gueuloir. Donc, je lis à haute voix, mais à très haute voix, sans mettre d'intention, en scandant les choses, pour voir si... et donc là, du coup, c'est plus une affaire de regard, c'est aussi une affaire d'oreille. On arrive soudain à voir, par exemple, qu'il y a des répétitions, ou qu'il y a des, c'est surtout ça qu'il faut traquer, c'est les phénomènes de discordance, quoi. Par exemple, je ne sais pas, le même son qui revient 3-4 fois en deux mots, c'est plus possible, ou parfois entre une voyelle et une consonne, ça ne marche pas. Enfin bon, ouais, tout un ensemble de choses qui font que, en lisant ce texte à haute voix, on l'entend. Et puis il y a aussi le fait que, comme les phrases, comme on dit, les périodes sont très très longues, il faut aussi qu'elles tiennent. Et en fait, dans le passage à l'oral, on voit, enfin moi je vois si la phrase est bancale ou pas bancale. Et aussi parfois, nul n'est parfait, il est possible. On voit aussi s'il y a des erreurs sur le plan syntaxique, enfin bon, des choses qui sont d'ordre de la petite cuisine, mais en tout cas, voilà, je passe successivement de l'écran au papier, à la voix, et hop, plusieurs fois.
Alors, vous venez de nous dire que c'est un travail qui vous occupe, notamment le premier G, pendant deux ans et demi. J'ai regardé les dates de parution de vos livres. Cela signifie peut-être que vous avez deux textes ou plusieurs textes en chantier en même temps ?
Non, un seul. Non, c'est vrai que dans les premières années où j'écrivais, comme je faisais...
Vous avez publié tous les ans.
Oui, ouais, comme je faisais que ça et que j'étais très jeune, j'étais plein d'énergie. Là, j'écrivais 15 heures par jour, tous les jours. Et puis, bon, voilà. Et j'avais que ça à faire. Et et puis, j'étais peut-être aussi dans une forme de naïveté que j'ai perdue. Donc maintenant, je me pose beaucoup plus de questions. Et puis aussi, l'écriture est beaucoup plus ambitieuse. Donc du coup, ça réclame plus de travail. Donc plus les années passent, paradoxalement, et plus le temps que je consacre à un livre
est
long. Alors voilà. Mais plus c'est difficile, quoi.
Alors, ce personnage, Nicole, qui est une pin-up, vous pouvez dire... On peut dire ainsi, qui va avoir une carrière d'une petite décennie.
Ouais.
Elle décède en 1992. On ne sait pas trop comment. Mais
on devrait a priori, vous devriez le savoir dans quelques années.
Voilà. Bon. Ah, c'est intéressant. Et on la suit. Donc, elle est née en 1966.
Voilà.
Il se trouve qu'à plusieurs reprises au milieu du livre, un narrateur émerge dans le récit. Ce narrateur apparaît et se définit comme étant son jumeau astral.
Voilà.
Voilà. 1966. Bon, il y a très peu de choses concernant votre parcours personnel, Éric Laurent, que ce soit chez votre éditeur ou dans la presse, mais je crois savoir que vous-même, vous êtes né en 1966.
Bah, l'héroïne du livre est née le même jour que moi, le 15 juillet 1966, dans la même maternité. Et ce qui me permettait d'évoquer des choses que j'avais vécues. Voilà. Donc, c'est, si je puis dire, comme dirait le grand Gustave, Nicole, c'est moi.
C'est-à-dire peut-être qu'en écrivant un beau début, vous avez expérimenté le devenir Nicole. C'est peut-être possible.
Ça. Peut-être, oui, oui, oui. Non, mais en tout cas, j'avais choisi ça parce que j'ai toujours peur de ne pas être juste quant aux justifications des actions des personnages. Donc c'est souvent pour ça que je m'éloigne jamais beaucoup de moi-même. Et là, c'était pour la première fois depuis que j'ai écrit, j'avais décidé de raconter l'histoire d'une femme. Et là, je me suis dit, mais je n'y arriverai jamais. Comment pénétrer la psychologie d'un être de l'autre sexe ? Et donc, je me suis dit, bon, on cherche toujours, même quand on écrit, des choses un peu confortables. Je me suis dit, bon, déjà, au moins pour limiter les dégâts, je vais la faire naître en même temps que moi, au même endroit. Donc au moins, si je me plante, comme on dit, au moins il y a certaines choses sonneront juste. Voilà, ne serait-ce que dans la description de l'arrière-fond géographique, culturel, de l'époque. Donc, et je suis même allé beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire que plus le livre avançait, plus je lui donnais des souvenirs personnels. Donc, je me suis déchargé d'une partie de mon enfance, ce qui reste, parce que j'avais déjà écrit un livre sur mon enfance, mais il restait des choses un peu en suspens, donc un matériau encore que, voilà, que je lui ai donné. C'est un personnage qui a une phase mystique dans son... Mmh. Dans son enfance, et cette j'ai moi-même été un enfant très très mystique à un moment de ma vie, et donc là je me disais parfait, là c'est bon, je vais pas faire de je serai pas à côté de mon sujet, ça c'est vécu, c'est prouvé, approuvé, et donc voilà.
Je pense que pour des femmes et des hommes de notre génération, c'est un parcours, je ne dirais pas banal, mais c'est un parcours fréquent. Les femmes et les hommes issus de milieux populaires, comme on dit aujourd'hui, sont souvent, nous avons été en position de faire le catéchisme, etc.
Oui, parce qu'on a connu, en fait, la dernière génération vraiment christianisée de la... qui était celle de nos grands-parents, quoi. Donc nés dans les années 10, 20, eux avaient vraiment... moi, plus, mes grands-parents étaient italiens, donc c'était encore plus affirmé. Il y avait une vraie dimension... c'est un peu la foi du charbonnier, malgré tout, mais la foi faisait partie de leur existence. Voilà. Et après, la génération de mes parents... Bon, ça n'a pas été le cas de mes parents, mais enfin, c'est la génération qui a fait 68. Et là, bon, c'est le désenchantement absolu. En tout cas, c'est la fin de... En Occident, là, Dieu finit de mourir, quoi.
Oui,
clairement.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, j'ai lu votre livre, et pour préparer notre entretien, je me suis livré parfois à de petites recherches, j'allais dire enquête, le terme est exagéré. J'ai remarqué qu'il y a toute une série de choses dans votre livre qui sont parfaitement intégrées à la narration, parfaitement intégrées à la fiction, mais qui ont des points d'ancrage dans la réalité. Ne serait-ce que, par exemple, l'histoire de ce poissonnier...
Oui.
Alors j'ai vérifié. Vous n'inventez pas.
L'histoire du notari, là.
Notari, oui. À Clermont-Ferrand.
Oui. Non, c'est pas...
La construction d'un bassin...
Beaucoup de choses sont... Beaucoup de choses sont vraies, oui. Bah, cette autre, si vous voulez, cette autre-là, en la circonstance, comme elle a cette otarie que moi j'avais connue quand j'étais enfant, je me disais, je ne peux pas ne pas en parler. Et donc j'ai fait une petite recherche. J'ai trouvé, mais c'est grâce à Internet.
Oui, j'ai trouvé ça dans la montagne, sur le site de la montagne.
Voilà, c'est ça. Non, je crois aussi, oui. Il n'y a pas beaucoup de. C'est le seul. C'est la seule source, quoi, qu'on trouve.
Mmh. Alors, Nicole est la fille de Suzanne, Suzy. Suzy vit avec, on va dire, aujourd'hui, les journaux diraient un délinquant. À mon époque, on dirait peut-être un marginal. On aurait dit un marginal, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Qui vit de petits vols, de petits trafics.
Voilà.
C'est un milieu, non pas un milieu prolétaire,
mais c'est plus bas encore.
Loupin de prolétariat, comme on disait.
C'est le loupin de prolétariat.
Tout à fait, loupin de prolétariat. Et en même temps, c'est un, comment dire, ce sont des individus qui ne sont pas en dehors de la société, du tout. On le voit, par exemple, avec Suzanne, Suzy, qui fait la route. Cela a correspondu à des choses que l'on a pu vivre ou que l'on a pu observer. Elle fait la route, un mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement voyager, ce n'est pas simplement aller à l'étranger, c'est expérimenter dans sa vie des idées, chercher un autre monde, véritablement. Vos personnages, donc, sont en marge de la société. Non, ils sont à la périphérie de la société, mais ils sont bien ancrés. Et du coup, vos lecteurs d'aujourd'hui vont pouvoir, sans que peut-être ce soit votre intention première, avoir une idée de ce qui était en jeu dans, je dirais, des milieux, là aussi, la langue de bois d'aujourd'hui, défavorisée, ce qui était en jeu à cette époque.
Peut-être. Oui. Ce n'est pas mon objectif premier, si vous voulez, mais je m'aperçois que livre après livre, je fais de plus en plus référence à des faits avérés, et je prends bien soin de documenter ce que je raconte et de le fixer de manière très précise dans un temps et un lieu donné. Voilà. Et c'est un travail qui était quasiment absent de mes premiers ouvrages et qui maintenant le devient. Voilà, c'est un effet, des effets de réel très naturalistes. Voilà. Mais qui se justifie dans cet ouvrage qui est de toute façon... qui est en référence à la grande tradition du roman français du 19e et notamment du roman naturaliste, voire des feuilletons populaires presque à la Eugène Sue, d'utiliser le topos habituel.
Il me semble, je me trompe peut-être, mais il me semble que cette forme, vous l'appropriez justement du point de vue de la langue. Dans la mesure où votre démarche, c'est-à-dire ce milieu défavorisé, le petit malfrat, je reprends votre expression, ces filles, ces jeunes femmes... qui ont bien des difficultés avec les hommes, hein. Elles sont plutôt maltraitées par les hommes. Oui. Vous ne les campez pas, vous ne brossez pas leur portrait dans la langue qui pourrait être la leur. Votre langue est une langue, je dirais, vous allez peut-être le prendre mal, mais c'est une langue morte. Dans le tram, on ne parle pas cette langue. Et y compris dans des journaux qui sont des journaux dits de référence, on ne l'écrit plus.
Non.
Donc cela, ça m'intéresse de voir que vous vous emparez d'une langue que vous travaillez, vous nous l'avez expliqué il y a quelques minutes, avec beaucoup d'énergie, de soins, d'amour. Vous emparez d'une langue, vous forgez une langue qui est une langue qu'on n'écrit plus au quotidien, qu'on ne parle certainement pas.
Et... qu'on n'écrit plus et qu'on n'a jamais écrite. Elle est faussement datée, en fait, parce qu'elle n'a jamais été... elle n'a jamais existé, cette langue. Même si on analyse très la manière d'écrire, même la ressemblance avec le style de Proust est fausse, en fait. Proust n'écrivait pas du tout comme ça. Il y a la chose la plus évidente, c'est la longueur des phrases, mais pour le reste, dans la manière d'enchâsser les idées, de travailler la sensation, chez moi, on est beaucoup plus superficiel, par exemple. Voilà. Alors que chez Proust, c'est plutôt... Chez moi, le plan est... Chez Proust, souvent, le plan, on pourrait dire qu'il est vertical, alors que chez moi, c'est plutôt horizontal.
Oui, je serais tenté de dire que chez vous, l'impression de lecteur, hein, non pas l'analyste, je n'ai pas eu le temps d'analyser véritablement votre langue et votre écriture, mais l'impression, c'est que vous êtes dans le rhizome, vous procédez par greffe.
Oui, oui.
Hein, par greffe.
Bon. Pour revenir à votre question, parce que je vous ai interrompu, en fait, c'était cette bizarrerie qui consiste à raconter quelque chose, à décrire un milieu très populaire, des situations extrêmement sordides, avec une langue au contraire très précieuse, très élaborée, parfois presque maniériste. Il y a un mélange d'étonnant je m'étais pas d'emblée, ça ne faisait pas partie du projet, en fait, parce que le projet, c'était de décrire plutôt la vie de cette starlette, et c'était de traiter le plus rapidement possible son enfance. Donc en fait, pour moi, la question ne se posait pas. Je me disais pas, bon, ça marchera pas, parce que ça serait, c'était dans le projet, c'était tellement allusif, ça devait faire une dizaine de pages, pas plus. Et donc, c'est, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas écrit le livre que je voulais écrire. Je ne l'ai pas encore écrit. C'est-à-dire que les 10 pages sont devenues 210 pages. Quoi. Voilà. Et donc, à un moment, effectivement, je me suis dit, mais je cours à la catastrophe, parce que c'est incompatible. On ne peut pas décrire une telle réalité avec une telle langue. Et puis, à la fois, il faut se souvenir, rappelons-nous Huysmans, quoi, qui, dans, je ne sais plus si c'est en Rade, je crois, qui évoque quand même la campagne, avec sa langue très particulière, et ça marche, quoi. Voilà. C'est vrai que, bon, laissons Zola ouais, à part, mais même Flaubert, quand même, quand il évoque le milieu rural dans Madame Bovary, parfois la réalité n'est pas très... Et la langue est tenue.
Votre personnage naît en 1966. Le début de sa carrière, c'est 1982.
C'est 1982, ouais, ouais.
Voilà. Pour ma part, c'est vraiment symboliquement et historiquement important. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est justement cette question de langue. Je dirais que la plupart de vos confrères, des auteurs d'aujourd'hui, qui voudraient écrire une histoire se déroulant dans cette période historique, essaieraient de mimer la langue que nous parlions. Or, il me semble que ce n'est pas du tout ce que vous faites, même si l'on retrouve des expressions de l'époque, même si, par le jeu de l'italique, le recours à l'italique, oui. Vous indiquez à vos lecteurs que le mot, l'expression, c'est l'expression du personnage et pas nécessairement celui de l'instance narrative. Oui. Hein, c'est très subtil, mais en même temps, on voit bien comment vous avez charpenté votre texte. Ce qui me paraît très intéressant, et peut-être que cela ne correspond pas à vos intentions, c'est que il me semble que vous n'avez pas versé dans la facilité de ce que j'appelle le vérisme, c'est-à-dire une démarche documentaire. De restitution. Tenez, si vous m'accordez une analogie, vous n'avez pas pris un film en noir et blanc et vous ne l'avez pas colorié du tout. Vous forgez votre langue et il me semble que c'est en forgeant cette langue que personne n'a parlé, que personne ne parle, qui est la vôtre et uniquement la vôtre, que vous parvenez à faire sentir à des lecteurs comme moi ce que pouvait être cette époque.
Oui, peut-être. Je ne sais pas quoi vous répondre, mais de toute façon, je ne pouvais pas épouser cette langue-là de l'époque. Donc, puis de toute façon, il y a très peu de dialogue dans mes livres, donc de toute façon, voilà, ce sont juste des petits mots qui sont des marqueurs en fait, mais oui. C'est tout.
Des inclusions, vous procédez par inclusion.
Oui, oui.
Alors là aussi, je m'égare peut-être, mais dans votre phrase, dans vos périodes, il y a des mots sur lesquels les lecteurs peuvent buter,
oui,
les mots rares, oui. Les mots que vous allez chercher vraisemblablement dans le dictionnaire. Et il me semble que leur position dans la phrase est toujours une position qui a trait au rythme. Dans la mesure où je suis à peu près persuadé que, y compris de fins lecteurs, seront arrêtés dans leur lecture par tel ou tel mot. Pas nécessairement par tous les mots rares que vous employez, mais par certains d'entre eux, ils seront, comme disait Barthes, obligés de lire en levant le nez.
Oui, oui, c'est certain, oui, oui.
Depuis la page.
Oui, oui.
Donc là, c'est délibéré.
C'est délibéré, oui, 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 oui. Il y a un fond presque, sans doute, sadique de ma part, mais après tout, de la même manière que je suspends le récit pour me lancer dans de longues digressions Je ne répugne pas à mettre des mots que je sais très bien que personne ne les connaît. Certains même sont des néologismes, donc on pourra aller les chercher, on ne les trouvera pas. Mais moi, je n'écris pas de la littérature facile, quoi. Je n'ai pas un lexique de 3000 mots, quoi. Donc, voilà. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et à la fois, c'est aussi... c'est vrai que ça devient... c'est quelque chose qu'on souligne systématiquement à mon égard en disant il y a des termes inconnus. Et là, moi, je pense que ça en dit beaucoup sur notre époque. Parce que on ne disait jamais ça de Huysmans. Il faut relire à rebours. À rebours, il y a trois ou quatre mots par page qu'on ne comprend pas. Et je m'étais surpris il y a quelques années en relisant Lolita de Nabokov. Dans Lolita, il y a à peu près un ou deux mots par page qu'on ne connaît pas. Et à l'époque, ça paraissait normal. Et c'est sans doute qu'il y a un appauvrissement de la langue littéraire actuelle. C'est très clair. Et moi, je me dis que si les auteurs ne défendent pas leur fonds de commerce, quoi. C'est-à-dire tout le matériau qu'ils ont, qui le fera à leur place, quoi. Qui le fera? Donc moi, je prends tout, et quand je cherche, je n'ai pas pour intention délibérée de mettre des mots, c'est pas un jeu non plus, de mettre des mots que personne ne comprend, parce que ce sont des néologismes, des archaïsmes, ou des mots rares, mais simplement, très souvent, quand j'écris, le premier mot qui me vient à l'esprit... à mon sens, ne recouvre pas exactement ce que je veux dire. Donc j'irai chercher, c'est parce que c'est de la recherche, je n'ai pas un lexique plus élaboré que le commun des mortels, mais j'irai chercher le terme qui désignera exactement ce que je vois et ce que je veux dire. Et si le terme est inconnu, ce qui est le cas la plupart du temps, s'il est rare, si je sais que ça va arrêter le lecteur, je me dis tant pis, je ne vais pas. Ce genre de concession n'est pas pour moi. Voilà. Tant pis, le mot arrêtera, on butera dessus, qu'on bute dessus. Après tout, on peut très bien aller chercher son sens dans le dictionnaire et reprendre le livre, reprendre la phrase au début.
De la même manière qu'on peut très bien interrompre la lecture pour rêver, tout simplement.
Exactement.
Pour méditer. Alors, ce qui m'intéresse, c'est mon aspect critique, au sens premier du terme, pas au sens journalistique. La place de ce mot rare, inconnu, de ce néologisme, cette place ne résulte pas du hasard. J'imagine que dans un certain nombre de cas, vous la travaillez pour que justement, postulant que le mot est en mesure d'arrêter tel ou tel lecteur, vous lui donnez une place spécifique dans la phrase.
Non.
Non.
Non. Non. Non. Ma pensée ne va pas jusque-là. Non, 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 vraiment pas. En revanche, si je fais en sorte de ne pas trop les rapprocher les uns des autres, les accumuler, quoi, voilà. Si je ne veux pas construire un paragraphe avec un mot inconnu par ligne, non, voilà. Donc parfois, effectivement, je m'oblige à la simplicité, mais les mots, non, ne sont pas délibérément placés à des endroits cruciaux. Non, 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 non. Je ne vais pas jusque-là.
Et ce travail sur la langue va de pair avec un travail, me semble-t-il, sur les stéréotypes. C'est-à-dire que les stéréotypes, vous ne les fuyez pas.
Non, non, non.
Au contraire.
Au contraire.
Vous donnez l'impression de les rechercher.
Oui.
Et de les épingler. C'est le terme qui me vient à l'esprit. D'épingler les stéréotypes. Ils ne vous font pas peur.
Ils ne me font pas... Non, ils ne me font pas peur. Non, non. Et il faut dire que très vite, j'ai appris à travailler avec parce que j'estime que je suis un écrivain sans beaucoup d'imagination. Donc, très souvent, dans la plupart des livres que j'ai faits, quand j'ai traité des situations, je les ai traités avec en m'occupant des lieux communs parce que je manquais d'originalité. Mais je me suis dit, bon, voilà, je vais jouer avec ces stéréotypes. C'est-à-dire que, de manière très ironique, ou alors les pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils éclatent. Mais dans mes ouvrages, il y a beaucoup de stéréotypes. C'est pour ça que très souvent, si on se contentait simplement de résumer la plupart des livres que j'ai faits, on serait confondu par la médiocrité du scénario. Enfin, on dirait, mais c'est un roman de gare. Je pense que Marc Lévy a beaucoup plus d'imagination que moi, et j'aimerais avoir son imagination, mais... pas avoir son style, mais j'aimerais bien avoir son imagination. Mais je ne l'ai pas, donc c'est voilà, d'où le fait que, effectivement, je recours quand même à des stéréotypes qui me servent, pauvre écrivain que je suis, pauvre inventeur que je suis, qui me servent à construire mon récit. Voilà.
La construction du récit est tributaire du procès d'écriture. Vous nous avez dit que ce personnage de Nicole, vous vouliez en raconter l'histoire. Et en fait, en 210 pages, vous nous écrivez, vous nous racontez, vous nous relatez son enfance et son adolescence. Mmh. Donc là, l'écriture, elle vous a réorienté.
Non, mais complètement, oui. Je me suis complètement laissé déborder par cette... par cette histoire.
Et ce débordement, est-ce qu'on peut assigner aux notes de bas de page, il y a quelques notes de bas de page, est-ce qu'on peut assigner à ces notes de bas de page la marque de ce débordement ? Parce que, notamment dans les notes de bas de page, vous dites au lecteur ce qui va arriver au personnage, notamment sa mort.
Oui.
La façon dont on va la trouver sur son lit, etc. Mais... Le livre se clôt sur le début de sa carrière.
Oui. Mais en fait, le livre, comme je pensais que cette enfance serait courte, en fait, je pensais que simplement ces notes auraient juste une petite valeur de... Ce serait juste un effet d'annonce dans ce que le lecteur lirait dans le livre. Parce que je pensais que je ferais tout l'ouvrage d'un coup. Voilà. C'est-à-dire l'enfance, l'adolescence... et puis la brève carrière et la mort. Quoi. Voilà, je pensais que ce serait un seul ouvrage. Donc je trouvais ça très plaisant d'annoncer certaines choses. Et là, en fait, j'ai annoncé des choses qui dans ce livre, n'ont pas lieu. Voilà. Donc ce qui est encore plus sadique. Mais bon, comme je vous disais, il y aura certainement un second volume. Donc voilà,
bon.
Donc ce sera résolu.
Rendez-vous dans 2 ans.
Voilà, deux ans.
2 ans, 3 ans.
Ouais.
Une dernière question peut-être. La façon dont vous emparez et dont vous épinglez les stéréotypes. Bon, vous avez cité un auteur à succès que je ne lis pas, mais...
Moi non plus.
Voilà, bon, donc c'est bien. Il me semble que... prenons ce qui arrive à certains de vos personnages. Par exemple... le garçon, le lycéen, le petit ami de l'héroïne. Je suis tenté de dire, c'est un petit bourgeois.
Alors, de parler duquel, celui qui, lequel, le narrateur ?
Non, pas le narrateur.
Le photographe.
Le
jeune photographe.
Oui, Luc.
Oui.
Luc Limon.
Oui.
C'est un petit bourgeois.
Oui.
Et son attitude vis-à-vis de sa petite amie, elle est stéréotypée.
Oui.
Bon. Et en même temps, c'est une attitude, dans les années 70, courante.
Peut-être.
Il y a toujours, dans le stéréotype, quelque chose de réel, qui renvoie au réel. Le stéréotype n'est pas une invention.
Ben non, par définition.
Et oui, le stéréotype, il y a quelque chose là.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, on dit que vous écrivez un roman, que vous avez écrit un roman populaire, etc. Pour moi, c'est un roman d'aujourd'hui, extrêmement savant, et qui est un roman qui fournit, je vais employer un terme qui va peut-être vous surprendre ou que vous allez réfuter, qui fournit des armes pour comprendre cette période. Et vous le faites avec une exigence dans la langue, dans la construction du récit, qui fait que vous ne versez pas, je dirais, dans le misérabilisme. Et la façon dont vous vous confrontez aux stéréotypes Vous n'êtes pas complaisant vis-à-vis des stéréotypes, mais en même temps, vous n'avez pas l'attitude élitiste de dire « Non, alors ça, c'est pas possible, etc. etc. » Bon.
Ah non, mais ça, c'est vrai que quand j'écrivais, de toute façon, je me disais, comme c'est, en tout cas, au début du livre, c'est au milieu, est tellement loin de ce que j'ai vécu, je me disais, à la fois, je ne veux pas apitoyer, mais à la fois, je ne veux pas surplomber mon sujet jusqu'à donner le sentiment que je méprise.
Oui, vous n'êtes pas condescendant.
Ces personnages. Au contraire, je voulais. Certains sont quand même assez antipathiques. Et malgré tout, je voulais leur conserver une part de une part d'humanité. Et surtout, c'est surtout éviter. Je ne sais pas si je l'ai évité d'ailleurs, mais voilà, les toutes traces de mépris social que d'ailleurs ma langue pourrait aussi encourager.
Mais je ne crois pas, dans le sens où, dans la dernière période, la presse, et pas seulement la presse, a encensé des livres mettant en scène des histoires se passant dans le reliquat de classe ouvrière existant dans notre pays. Et souvent, ce sont des livres qui, du point de vue de la langue, sont mimétiques.
Oui.
Et je ne suis pas persuadé, quand on les lit bien, que les milieux décrits soient présentés sous un jour favorable.
Oui.
Au contraire, il y a comme un mépris de normal sup à l'endroit de la classe ouvrière en disant « Regardez ces spécimens, comment ils vivent, et que c'est curieux. »
Peut-être.
Enfin, voilà. Et en tout cas, ce n'est pas du tout le cas dans votre livre.
Non, vraiment. Bah, j'espère, parce que c'était vraiment quelque chose dont je voulais me dispenser.
Seriez-vous d'accord pour nous lire un court passage de,
oui, si
de votre
voulez,
roman,
si vous voulez. Passé la jouissance un peu fat qu'il avait tiré les premiers temps à sortir au bras d'un canon pareil, qui suscitait la convoitise de tous ses camarades, et dont la conquête avait définitivement achevé de sceller auprès de ceux-ci sa réputation de tombeur, capable de tourner la tête de n'importe quelle fille, y compris celle qu'il tenait en raison de leur beauté pour parfaitement inaccessible, Luc n'avait pas tardé en effet, malgré l'agrément que conférait à sa société la gaieté pétillante, la vivacité enjouée, l'espièglerie insolente qu'elle mettait en toute chose, et qui le changeait de l'esprit de sérieux de la plupart des filles qu'il côtoyait au lycée, à juger sa nouvelle petite amie superficielle, inculte, voire tout bonnement idiote, autant de travers que condensait à ses yeux sa toquade de se faire un nom malgré son absence de tout talent, force lui de montrer son cul, pour reprendre l'expression dont il usait lui-même parfois, quand elle l'exaspérait par ses rêves de gloire, qu'il jugeait non seulement puéril, mais parfaitement chimérique. Peut-être aussi, plus obscurément, cherchait-il, en dirigeant sans cesse son objectif sur elle, et cela avec une insistance de plus en plus poussée, qui le conduirait peu à peu à multiplier les gros plans de telle ou telle partie de son anatomie, jusqu'aux plus secrètes, sans que pour autant Nicole s'en montrât le moins du monde offusquée, en riant au contraire comme d'une bonne blague, y compris et peut-être même davantage quand il les saisissait dans des situations qui les impudicisaient, et plus encore, comme ce jour où il lui demanda plusieurs fois d'uriner accroupi devant lui, à seule fin de fixer sur pellicule la conformation de son sexe dans la miction, recueillant ainsi des dizaines d'images de ses nymphes entrouvertes et frémissantes sous le jaillissement du liquide, dont le jet légèrement contourné décrivait entre ses cuisses nues une parabole parfaite qui se décomposait peu à peu en un chapelet de petites perles ambrées. Peut-être aussi, disais-je, cherchait-il à comprendre, par-delà le puissant, l'irrésistible même désir sexuel qu'elle lui inspirait, ce qui pouvait bien l'attacher à cette fille qui, dans le fond, n'était pas son genre.
En votre nom à tous et à toutes, je tiens à remercier Éric Laurent pour le temps qu'il nous a accordé et pour la lecture de deux pages véritablement savoureuses. Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie. Merci de venir.